Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
18h34, bienvenue dans le débat de grande voix au cœur de ce grand journal sur Europe 1. L'actualité en débat ce dimanche 20 septembre. J'accueille Laetitia Krupa, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique et président de MCBG Conseil. Et François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
À la une des personnalités politiques qui montent au créneau aujourd'hui pour soutenir et revendiquer la loi contre les séparatismes que prépare le gouvernement. Manuel Valls ou Xavier Bertrand réclame un acte d'autorité d'Emmanuel Macron. Le vrai sujet, disent-ils de concert, est la lutte contre l'islamisme. Nous en parlerons. L'arrivée imminente du Tour de France également. Quels sont les ennemis au fond de cet événement si populaire? On reviendra sur la charge anecdotique, peut-être pour vous, mais qui a eu tant de résonance de quelques élus. Mais pour commencer, mesdames et messieurs, notre tour de table avec vos traditionnels coups de cœur, coups de griffe du moment. Laetitia Krupa, c'est un coup de cœur ce soir. Je vais dire une fois n'est pas coutume pour un réseau social.
Exactement, pour le réseau social Snapchat qui, aux États-Unis, a ouvert une fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de s'inscrire sur la liste électorale. C'est l'excellent journal Özbek Erika qui en parle aujourd'hui. En quelques jours, plus de 400 000 personnes se sont inscrites sur le réseau. Et le réseau s'attend à ce que ce nombre augmente parce qu'il lance une grande campagne de sensibilisation avec, s'il vous plaît, des stars, Barack Obama, Snoop Dogg, ou encore Schwarzenegger. Aux États-Unis, Snapchat, c'est 100 millions d'utilisateurs, avec une grande partie qui ont entre 13 et 24 ans.
Donc, cible idéale.
Vous comprenez tout de suite l'intérêt d'un tel réseau pour les politiques, et ça pourrait arriver en France, sait-on jamais. Et peut-être que les jeunes qui sont, on le sait, majoritairement abstentionnistes pourraient être sensibilisés. Peut-être que les politiques français comprendraient enfin cet univers, voilà, encore vierge d'un électorat potentiel, ou même ce support d'une puissance, pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à la calculer, mais d'une grande puissance pour la communication politique, parce que vraiment, selon moi, sur les réseaux sociaux, nos politiques sont nuls. Je trouve qu'il n'y a...
Ils font la petite phrase qui les concerne pour leur propre communication, mais pas pour engager en tout cas le débat sur la participation.
Ça ne fonctionne pas.
Ils détournent le réseau social dans ce qu'il aurait
de communication directe.
François Claus.
Et qui détourne le réseau social dans ce qu'il aurait de vocation justement collective. Et oui, c'est bien que Laetitia nous dise que dans réseau social, il y a social. Et que l'individualisme forcené qu'ils ont contribué à développer se transforme dans une œuvre collective. Oui, j'applaudis.
C'est un support idéal. Je vous rappelle juste, hein, Facebook, ça fait 16 ans que ça existe.
Oui.
Snapchat, 9 ans. Peut-être qu'en France, on peut se réveiller et aller au-delà de la photo d'un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a fait beaucoup rire sur les réseaux avec sa nouvelle voiture électrique. Voilà, on en est là en France. Je pense que là, il y a du chemin et il y a un grand, grand espace d'innovation.
Qu'en dit le spécialiste de la communication politique, Philippe Moreau-Chevrolet? Vous les engagez, nos politiques, justement, à suivre
ce
modèle?
Ah oui, ils sont au Moyen-Âge en France. On ne sait pas utiliser les réseaux sociaux. On a peur de la communication directe avec les Français. C'est quelque chose qui terrifie les politiques. Alors que c'est un moment... Enfin, Trump est la démonstration qu'on peut être très efficace sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire pour le meilleur et surtout pour le pire, pour ce qui le concerne. Mais lui, il le maîtrise. Ses adversaires, non. Ça a coûté très cher à la démocratie américaine. Donc, il faut se réveiller parce que si les démocrates ne savent pas utiliser les réseaux sociaux, ce sont des non-démocrates qui demain sauront les utiliser contre la démocratie et même en ne se cachant plus. Donc il faut se réveiller un petit peu.
C'est une force et une influence, hein, voilà, à savoir maîtriser. François Claus, coup de cœur ou coup de griffe ou coup de blues ce soir?
Non, coup de griffe contre moi-même, non pas par un,
bah
non pas par un nouveau masochisme dans lequel je sombrerai. Non, je l'ai ressenti en lisant ces dernières heures le petit livre qui est sorti dans la belle collection Tract de Gallimard, co-signé de Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre, et de la philosophe Sandra Logier, qui s'appelle La société des vulnérables, et qui nous fait découvrir ce qu'a été l'effet, enfin nous découvrir, à nous les hommes comme moi qui manquent de conscience et qui ont besoin de cette piqûre de rappel, que le Covid a révélé et a peut-être balayé en quelques semaines ce qui avait été les formidables progrès dans les rapports hommes-femmes que le MeToo avait pu instiller. Oui, les hommes pendant cette période ont mené la guerre contre le virus. Oui, les hommes ont envahi l'espace politique. Oui, les hommes publiaient des revues scientifiques pendant que les femmes, elles, étaient infirmières, étaient aides-soignantes dans les EHPAD, étaient caissières dans les supermarchés. C'est elles qu'on applaudissait le soir, mais ce sont les hommes qui menaient la guerre. Et que le propos, il est fort, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que moi, homme ouvert, pensant être à la pointe du combat pour l'égalité homme-femme, je n'en avais même pas pris conscience à ce moment-là, et qu'il est temps de prendre conscience de la place qu'on prend et qu'on occupe, nous, les hommes, et que le gros problème de ces rapports homme-femme, il est souvent chez l'homme, dans ce manque de conscience. Et donc, j'ai pris un coup de griffe en forme de piqûre de rappel que j'ai trouvé particulièrement salitaire. Merci. Ça s'appelle « La société des vulnérables ».
Et en forme d'édito, hein, François Clos, avec la collaboration de Najat Vallaud-Belkacem. On se plongera dans cet ouvrage.
Et de Sandra Logier, la philosophe.
Sandra Logier. Un autre rapport vous intéresse, vous, Philippe Moreau-Chevrolet, ce soir, dans ce coup de quoi ?
Un coup de cœur pour un ouvrage de Mathieu Sapin qui s'appelle Comédie française, qui va sortir le 1er octobre. Juste pour rebondir sur ce que disait François Clos, le Covid-19, ça révèle les inégalités. C'est également parmi les plus pauvres qu'on trouve le plus de morts. Donc, c'est un révélateur des inégalités. Donc, il faut qu'on soit attentif à ça. Pour revenir à Mathieu Sapin, Mathieu Sapin, on le connaît parce qu'il a fait Gérard, 5 ans avec Gérard Depardieu.
C'est formidable.
Donc, ça marque un homme. Et ça,
en bande dessinée.
En bande dessinée. Et ça fait un succès de librairie colossal. Il est aussi... Il a démarré sa carrière aussi en étant quelque part à l'ombre des puissants pour les observer. Il a fait la campagne présidentielle de François Hollande.
Oui,
il a fait la
la campagne, il est arrivé à l'Élysée.
Voilà, il a fait la première année qui s'appelle Le Château, la première année de Hollande à l'Élysée. Oui. Et là, il sort Comédie française qui s'intéresse précisément au rapport entre les journalistes, les artistes et le pouvoir en France. Vous savez qu'on dénonce souvent la proximité de ces univers, mais en fait, ça date d'il y a très longtemps et il fait un parallèle avec Racine. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette BD. J'ai appris que Racine avait arrêté sa carrière, donc c'est l'auteur de Britannicus, l'auteur de Phèdre, c'est un auteur qu'on étudiait à l'école. Il a arrêté sa carrière de dramaturge alors qu'il était une célébrité comparable à Florian Zeller. Enfin voilà, il passait dans tous les salons, on se l'arrachait.
J'avais jamais imaginé la comparaison, mais vous l'avez fait.
Il faut l'imaginer à l'époque, voilà, c'est le Florian Zeller de l'époque. Il était aussi bien coiffé, aussi bien habillé, très apprêté, etc. Et c'est justement ça qui l'a emporté chez lui. Et il est devenu courtisan et il a fait la géographie, c'est-à-dire la gloire. Il a écrit pour la gloire du roi pendant une décennie, je crois plus d'une décennie. Et assez tragique parce que toute cette partie de son œuvre a été détruite dans un incendie. Donc c'est très symbolique, c'est très cruel, on n'en a aucune trace et on n'a gardé que ses tragédies. Et Mathieu raconte ça en disant « Mais moi, quel est en tant que dessinateur, en tant qu'artiste, mon rapport avec les puissants ?» Et je vais terminer par ça, il raconte une scène incroyable où il est en coulisses du grand débat présidentiel entre Marine Le Pen et Macron. Il dessine tous les courtisans qui viennent dire au chef « Vous avez été brillantissime, fantastique, merveilleux. » Le chef faux modeste qui dit « Ah, vous pensez vraiment ? Parce que moi, je ne me suis pas trouvé, etc. » Et il montre ça à Brigitte Macron. Et Brigitte Macron dit « Attendez, attention, c'est une expression d'une première dame, donc ne m'accablez pas. » Elle dit « J'en ai marre de ces susboules. » Et ça résume bien le rapport français à la cour. On aime bien la vivre, mais on n'aime pas la voir. Et en tant qu'artiste, où est-ce qu'on place la représentation ? Quand est-ce qu'on devient un courtisan soi-même ? Donc c'est une vraie réflexion et c'est un beau livre.
La comédie qui n'est pas que française, mais en tout cas, c'est l'œuvre de Mathieu Sapin. On la suivra le 1er octobre.
1er octobre, ça s'appelle donc Comédie française.
Merci, voilà pour cet apéritif croisé dans les grandes voies. Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet et François Clos. On va s'intéresser juste après la pause à l'arrivée imminente du 107e Tour de France. Le Slovène Pogacar en route vers un premier sacre sur les Champs-Élysées. Et ceux qui veulent du mal à cet événement si populaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voies.
Mobilisé jusqu'à 19h avec nous, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, François Clos et ce jeune coureur qui aura 22 ans demain, qui ne partait pas favori et qui sera peut-être sacré dans les minutes qui viennent. Plus jeune coureur de l'après-guerre. On ne va pas lui porter malheur, mais a priori, moins d'un mauvais sort quand même, François Clos. C'est ça la glorieuse incertitude du sport quand même.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors cela dit, c'était une glorieuse épopée cette année, très particulière. Et donc sur le plan sportif, c'est peut-être pas la meilleure référence. Oui. Mais quel symbole qu'un coureur de ce petit pays de 2 millions d'habitants vienne gagner. Il va y avoir quasiment 2 millions d'habitants dans la rue ce soir du côté de la Slovénie. Ça montre la puissance de cet événement. Et moi, je l'ai vécu en étant parfois en reportage à l'étranger, que ce soit en Amérique du Sud, lorsqu'il y avait les épopées colombienne, que ce soit en Israël, même pays qui est loin d'être un pays de vélo, où on me parlait du Tour de France, c'est une épreuve absolument extraordinaire. extraordinaire dans le même immeuble. Vous avez le grand intellectuel qui regarde les tables de l'après-midi et qui en discute le soir avec sa concierge. Il y a assez peu d'événements sportifs qui peuvent fédérer comme ça et qui sont une épopée. Donc le combat pour venir aujourd'hui dire ce Tour de France n'a plus lieu d'être, il me paraît mais désuet à côté de la plaque, même s'il y a des choses à changer peut-être pour verdir l'accompagnement du Tour de France et cette caravane publicitaire. Mais les organisateurs y travaillent et je pense que ça pourrait même servir de modèle demain en ayant une caravane 100% électrique et des gadgets recyclables qui ne seront plus made in China. Et puis, est-ce qu'il y a un meilleur vecteur pour pousser à la pratique du vélo ? Moi, alors, j'ai eu mon premier vélo à l'âge de 7 ans, demi-course Peugeot, parce que l'après-midi, je regardais Merckx en train de se battre contre Thévenet dans la montée du Galibier.
Ah ouais,
c'est
mais là,
ça aussi le Tour de France.
Vous êtes d'une autre époque, là, quand même. Parce
ah ben,
que, alors,
carrément, oui, je
l'assume. Pas fait le... J'aurais pas fait le rapprochement entre le Tour de France.
On a envie de faire du vélo quand on les voit. Moi, enfant, j'avais envie de faire du vélo.
Ce sont des héros quand même assez incroyables.
Oui, des héros,
incroyables.
Mais de là à s'y mettre soi-même.
D'une
force
physique.
Ah, moi, je faisais des tours de parking dans ma cité et je me disais, je suis Eddy Merckx à l'époque.
Et du coup, événement si populaire, suivi par 2 milliards de téléspectateurs dans le monde. C'est hallucinant, les
spectateurs. Ce qui est génial, c'est quand on a les données là, pour la première semaine de France Télévisions, eh bien, l'audience est en progression par rapport à l'année dernière. Alors qu'on aurait pu se dire, bon, avec tout ce qui se passe, ça va un peu éroder
l'audimat. Oui.
Et pas du tout. Alors maintenant, on prend en compte l'audience aussi sur les smartphones. Et bien, figurez-vous qu'entre 15 et 24 ans, ils sont 38% au moins à avoir regardé au moins une minute du tour. Et sur la première semaine, 30 millions de fans ont regardé au moins une minute du Tour de France. Enfin, vous imaginez.
Bon, une minute, c'est pas baiser, pardonnez-moi.
Oui, mais enfin, on se rend compte qu'on imagine bien que c'est pas
c'est
une minute.
C'est la mort d'erreur.
On se rend compte
qu'il
y a 30 millions qui suivent cet événement. C'est colossal.
Et tout ça pour dire que diable est-il passé par la tête d'un certain nombre d'élus, verts en l'occurrence, qui se sont mis à dézinguer, je pense au maire de Lyon, cet événement, le qualifiant de machiste et polluant. Et puis cet élu Europe Écologie Vert de Paris, Jacques Bouteau, que vous ne connaissiez peut-être pas, mais qui a réussi à faire parler de lui. Écoutez. Jacques Bouteau, s'il arrive.
Il est là pour faire rêver les Français, donc il les fait rêver, il fait son job. Il leur file des gadgets inutiles, il leur vend du spectacle, n'empêche qu'on ne leur donne pas de boulot en attendant. Ils restent calés devant leur télé à rêver à des exploits de type hyper dopé qui ne gagnent que parce qu'ils se font changer leur sang dans des cliniques.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une juxtaposition de.
Ah non, mais on lui donne pas le maillot. Il n'aura pas le maillot vert ce soir.
Philippe
Morin-Chevrolet.
Alors, c'est une recomposition de la gauche. Et effectivement, on assiste à l'émergence d'une gauche très vocale, très présente dans les médias, qui réussit d'autant mieux qu'elle réussit à faire le buzz, même si c'est négatif, ça fait toujours parler. Elle se place au centre du débat, qu'on le veuille ou pas. Alors, évidemment, c'est très frontal et ça défend un point de vue qu'on pourrait qualifier de parfaitement bourgeois sur le Tour de France, qui consiste à dire. Voilà, c'est très mercantile, c'est un petit peu sale et on ne comprend pas bien pourquoi tous ces gens s'excitent sur des vélos. C'est un petit peu comme le foot. Pourquoi il y a 22 types qui courent pour mettre des babales au fond des filets ? Bon, voilà, on peut voir ça comme ça.
Mais on assiste au même débat. C'est intéressant que ça arrive dans ce domaine du cyclisme.
Le problème, c'est que ça arrive dans le domaine du cyclisme. Le problème, c'est que c'est probablement vrai ce qu'il dit. Quand on prend les éléments séparément, il y a du dopage, il y a de l'argent, etc. Il y a du plastique, on pollue. Tout ça est vrai, mais est-ce que ça condamne une activité sportive ? Toutes les activités humaines sont basiquement polluantes. Dans toutes les activités humaines, vous avez des malhonnêtes. Enfin, je veux dire, tout peut être taxé comme ça. Donc, la crainte des écologistes aujourd'hui, c'est qu'à force de faire le buzz sur des trucs à la Trump, mais Trump écolo, on va dire, on discrédite le mouvement, on le coupe encore plus de la base populaire, et on fasse de l'écologie encore plus un produit qui aujourd'hui est un produit pour bobo. C'est un produit de luxe, l'écologie. Quand on peut se l'offrir, on prend le baril bio.
Laetitia et François sur le sujet.
Et moi, je mettrais juste en garde ceux qui relaient, en fait. Vous avez raison, Wendy, vous avez présenté ce monsieur, dont j'ai même oublié le nom, comme une
Jacques
personne
Bouteau.
Complètement inconnue. Enfin, je veux dire, ce sont des propos d'un homme inconnu. Donc, il faut toujours savoir qui parle. Qui parle sur une chaîne qui est regardée par 200 000 personnes et qui, parce que des personnalités à grosse notoriété, comme Christophe Castaner, Isabelle Saporta, Pierre Lescure, finalement réagissent. On se demande qui instrumentalise qui. Est-ce que ces personnes n'instrumentalisent pas cette petite polémique, micro-polémique de niche sur Twitter ? Mais enfin, combien de Français réagissent sur Twitter ? Franchement, si on regarde l'ensemble de la population active en France. Et donc, en réagissant à ses propos, il donne une importance. C'est toujours la même histoire,
ça, c'est sûr.
L'effet boule de neige.
Ça, c'est sûr.
Peut-être qu'il ne faut pas Pierre Lescure, Isabelle
mais
Saporta,
mais ils sont là pour
Christophe
dénoncer
Castaner.
Un travers manifeste, François Claus,
oui.
Si on en terminera là.
Oui, mais qu'ils soient là, les écolos, pour nous donner... Mais qu'ils soient là, à ce moment-là, pour ouvrir le débat. Et d'ailleurs, le maire de Grenoble l'avait fait lorsqu'il a été élu il y a 4 ans. Sur un tour plus féminin, sur un tour plus vert. Bien sûr que c'est une vraie question, ça. Mais qu'on aille là-dessus et qu'on ne vienne pas prononcer des propos aussi caricaturaux que ceux-là, on va finir par lui dire d'aller faire du vélo avec les amiches, si ça continue. Donc, non, mais
donc,
c'est,
la grande phrase de cette semaine, la grande phrase de cette semaine, François, c'est les amiches de mes amiches sont mes amiches.
C'est vrai.
Sur les réseaux sociaux.
Non, mais on en revient à ce que disait Laetitia sur les réseaux sociaux peuvent avoir une grandeur et puis une toute petite petitesse. Et là, on est à une toute petite petitesse.
Allez, donc on ferme la parenthèse et on ouvre un autre sujet. Les discours de fermeté à la une aujourd'hui dans le JDD et sur Europe 1 de Xavier Bertrand et de Manuel Valls qui appellent à dire les choses clairement pour lutter contre l'islamisme.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, Laetitia Krupa, François Claus, Philippe Moreau-Chevrolet débattent sur l'actualité, le projet de loi contre les séparatismes qui fait réagir les personnalités politiques. Et c'est un doublé aujourd'hui, une coïncidence intéressante à décrypter dans le JDD et sur Europe 1. Xavier Bertrand, d'abord invité du Grand Rendez-vous ce matin, qui dénonce la grande naïveté du président sur la question du séparatisme.
Le président de la République a visiblement du mal à prononcer le mot islamisme, parce que c'est ça quand même le problème. Ça fait des années que tout le monde prend conscience. Et il n'y aurait pas la grande naïveté du président de la République sur ces questions, ça fait longtemps qu'il aurait dû y avoir un texte.
Le vrai sujet, c'est la lutte contre l'islamisme, dit par ailleurs Manuel Valls, qui rejoint donc tout à fait ses propos. Bon, c'est la coïncidence aussi de l'affichage médiatique, mais comment interprétez-vous ces deux sorties, Philippe Moreau-Chevrolet ?
Alors le président essaye de mettre à l'agenda le séparatisme pour apparaître plus régalien, donc pour apparaître aussi comme celui qui va incarner une identité française. C'est une ligne qui lui serait plus ou moins soufflée par Bruno Roger Petit. Bruno Roger Petit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un intellectuel plutôt mitterrandien, très tourné vers l'histoire en fait.
Et qui continue de le conseiller alors.
Qui l'a conseillé au début, il y a eu une éclipse de Bruno Roger Petit pendant quelques années. Et puis le premier cercle autour de Macron s'éclaircissant, il est revenu apparemment dans les premiers rangs. Et
d'accord.
En tout cas, c'est une stratégie qu'il souffle. C'est-à-dire, en gros, vous allez devenir un peu comme Patrick Buisson avait soufflé à Sarkozy sa stratégie de droite. Vous allez devenir plus droitisé, plus proche de l'identité nationale, plus proche de la République au sens dur du terme. Manuel Valls redevient dans cette hypothèse-là intéressant pour le pouvoir. Mm-hmm. Jusqu'ici, c'était un énorme boulet, il faut l'avouer, pour la Macronie. Là, il redevient un petit peu bankable, donc il retrouve un petit peu de lustre. La question, c'est est-ce que ça adhère vis-à-vis des Français ? Et c'est là-dessus où on a quand même un doute. C'est que autant ça occupe la sphère intellectuelle beaucoup et médiatique pas mal, autant dans les enquêtes d'opinion, c'est loin derrière le Covid, le pouvoir d'achat, la sécurité tout court, c'est-à-dire la sécurité des biens et des personnes. Donc,
oui.
C'est pas encore quelque chose qui
pas
est
encore,
central.
Pas encore, mais c'est ça le souci, c'est que tous les observateurs, les pronostics font consensus, c'est-à-dire qu'ils disent que 2022 peut se jouer sur ce sujet de la sécurité et comme 2002 est encore vraiment dans les esprits comme une plaie ouverte, finalement, elle n'a jamais été vraiment cautérisée, cette plaie. Bien sûr que chacun avance ses pions, mais Xavier Bertrand, rien de neuf sous le soleil, c'est un sujet qui est préempté par la droite depuis des lustres. Puis lui, il y va tout le temps, régulièrement, dès que Macron laisse un petit flou, un interstice, il s'y engouffre en claquant la porte.
Oui, mais c'est
porte.
Intéressant parce que ça forcément annoncera un éclaircissement de ce langage.
De toute façon,
il faut
Emmanuel
dire les choses.
Oui, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi sur le séparatisme. Donc normalement, on devrait avoir une communication politique sur le sujet.
Mais pas contre l'islamisme, c'est ce que reproche ouvertement Xavier Bertrand et Manuel Valls. De ne pas dire clairement les choses. Manuel Valls qui dit...
On n'est pas, peut-être qu'il dira islamisme.
Mais qui dit, François Claus, par exemple dans le JDD, évitons de parler d'incivilité quand il s'agit d'actes barbares. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, ça doit vous parler.
Oui, et puis l'embrasement médiatico-politique qu'il y a eu autour de cette audition controversée de la vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pouchetou, à l'Assemblée nationale, montre que le sujet est quand même ultra sensible et qu'il y a besoin aujourd'hui peut-être de clarifier et de légiférer un petit peu plus. C'est-à-dire la question de fond, elle est là. À partir de quel moment une religion peut imposer ses normes à la société ? Et comment la société et comment le pouvoir politique doit-il réagir ? C'est une loi de 1905, qui est une loi qui garantissait, rappelons-le, les libertés en France, mais qui date de 1905. L'islam est aujourd'hui la première religion de France. On voit dans les pays d'islam, et pour l'avoir moi vécu, j'allais dire dans ma chair, pendant quelques mois au Maroc, on voit bien comment, sans qu'il y ait le moindre texte de loi, une religion impose petit à petit sur la société ses lois, et que la France ait besoin aujourd'hui, dans ce contexte, le pays de la laïcité, de réagir à cette situation, je pense qu'il est temps de le faire. Les débats vont être, on l'a vu avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, passionnant à suivre, houleux très vraisemblablement, mais peut-être qu'il y a un nouveau cadre à définir. On part peut-être du côté de l'université, par exemple, je pense qu'il est temps, effectivement, pour éviter cet embrasement autour d'une Barbie qui porte un voile ou autour d'un burkini sur une plage qui occupe le champ médiatique, qu'on arrive à un cadre plus clair.
Oui, c'est ça.
Donc on attend effectivement que des voix nouvelles, en fait, parlent de ce sujet, s'en emparent. Mm-hmm. Et bien sûr que le quinquennat Macron, pour l'instant, a laissé ce sujet de côté. En fait, il a fait un peu
de
marotte.
Vous avez perdu 3 ans, dit Xavier Bertrand.
Oui, il en a fait un peu de marotte. On va en parler. Et puis, c'était jamais le moment. Donc là, on va savoir ce qu'effectivement Emmanuel Macron pense et compte faire au niveau légal sur ce sujet. Mais il y a aussi la gauche. La gauche est complètement atone sur le sujet. La gauche, depuis tellement d'années, outre Jean-Luc Mélenchon, qui est un petit peu à l'extrémité de la gauche,
sauf
Valls qui a récupéré à gauche ce thème, mais ça a été assez mal vécu dans la majorité socialiste. Ça a été l'un des moteurs de la fronde, donc c'est quelque chose qui est très compliqué à empoigner à gauche, parce qu'on a peur de discriminer, on a peur de stigmatiser une religion, et on a peur des effets secondaires du fait de désigner une religion comme coupable de nouveaux maux qui n'existeraient pas.
Peut-être mais des effets secondaires sur l'électorat aussi.
Mais je suis d'accord sur une chose, c'est qu'il faut un cadre clair, puisqu'apparemment, quand on a une réaction comme « je m'en vais d'une salle à l'Assemblée nationale » parce qu'on a quelqu'un qui est voilé en face de soi, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut le traiter. Peut-être qu'il faut débattre.
Là, il faut le rappeler.
Et le clarifier. Merci, c'était le débat des grandes voix. On se retrouve samedi prochain, 18h30, 19h30, avec François Claus, Laetitia Krupa et Philippe Moreau-Chevrolet. Merci beaucoup à tous les trois. À retrouver en podcast sur Europe 1.fr. À tout de suite.
Wendy Bouchard, les grandes voix.